Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
C'est bon de vous voir, j'ai quelques minutes avec vous. Comme vous le voyez, ma voix est presque revenue. C'est la première fois que je traîne une grippe aussi longtemps que cela. Et je pensais cette semaine, je disais, Seigneur, comment ça se fait que tu ne me guéris pas? Suis-je trop faible? Est-ce un manque de foi? Est-ce que l'Église ne prie pas pour moi? Et en fait, je me suis rappelé Christ sur la croix. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils ont vu Christ sur la croix, ils l'ont vu faible. Ils l'ont vu vide de toute puissance. Ils croyaient que c'était un simple homme. Ils l'ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends et sauve-toi toi-même. C'était le Fils de Dieu. Et pourtant, malgré tout, Christ était là, sur la croix, tout puissant, rédempteur, Seigneur, extraordinairement connecté à Dieu le Père. Et sur la croix, les gens ont pensé qu'il n'était qu'un simple homme. Et ce matin, je vais me dire, Seigneur, tu sais quoi? Quel que soit l'état dans lequel je me trouve, quelle que soit la maladie à laquelle je fais face, je suis en qui je crois. Et je ne vais pas m'amuser à m'appuyer sur ce que je ressens pour louer mon roi. Je loue mon roi parce que Dieu est vivant. Je loue mon roi parce que je l'aime, parce qu'il m'aime. Alors, merci à tous ceux et celles qui sont dans la prière pour moi. Merci à vos encouragements. J'ai reçu plein d'SMS, plein d'emails, messages Facebook, Twitter, qui m'ont donné des recettes de grand-mère, d'arrière-grand-mère, et même de grand-mère des années 1500. Je ne sais pas comment vous l'avez appris. Ça n'a pas totalement marché. Et je pense que Pasteur Steve vous a partagé pendant l'histoire le miracle que j'ai pu vivre aussi quand j'étais à Selaos. Je suis allé voir une pharmacie. J'ai dit, voilà, j'ai un gros problème. Je ne parlais pas en fait encore au moment. Et je chuchotais, je disais, j'ai besoin d'un médicament qui va m'aider à retrouver la voix. J'ai rendez-vous avec Monsieur Antoine Laura qui réalise une émission dans le cadre de l'émission Faut pas rêver. Ils sont là ce matin avec Alexandre, c'est ça? Bienvenue Antoine, Alexandre, bienvenue. Bon de vous voir. Bienvenue. Et donc je disais à la pharmacienne, s'il vous plaît, il me faut un médicament qui me permette de retrouver la voix en quelques heures. Et je donnais le nom d'un médicament, j'ai plus en tête. Et elle me dit, c'est impossible, il faut qu'un médecin vous signe une ordonnance. Et je dis, je peux pas, mon médecin n'est pas là, c'est fermé aujourd'hui. Elle me dit, le médecin voisin est ouvert. Je dis, écoutez, je ne vais pas payer quand même 25 ou 23 euros pour une ordonnance. Je connais le nom du médicament, je sais qu'il me faut 3 cachets pour mon poids. S'il vous plaît, faites un effort. Et elle me dit, écoutez, si Dieu vous aime, il vous dira oui. Je la regarde, je fais, je dis, mais Dieu m'aime. Si Dieu est bon, il vous dira oui. Je dis, mais Dieu est bon. Elle me dit, mais Dieu est intransigeant. Il respecte les règles et les lois. Je fais sûrement. Mais la justice de Dieu est toujours connectée à la bonté de Dieu. Elle me dit, pas mal, bonne réponse. Je vais voir le pharmacien. Je reviens. Elle me dit, je vais voir Dieu. Comme ça, mais elle ne me connaît pas. Je me dis, si elle se revient à l'église, je ne la connais pas. Mince. Et elle revient avec le pharmacien. Elle dit, monsieur, je suis désolé. Je ne peux pas vous donner le médicament. C'est impossible. Je vais écouter. Dieu m'aime. Dieu est bon. Dieu vous aime. Dieu est bon. Et je vois, monsieur Laura, cet après-midi, il me faut un cachet. Elle me dit, ah, écoutez, c'est important, c'est une émission qui est diffusée dans le monde entier, j'ai besoin de parler, il me faut ma voix. Mais bon, je vais voir ce que je peux faire. Et il amène son infirmière, enfin, comment on s'appelle ça, sa collègue, son speakerine, ce que vous voulez. Hein. Et c'est quoi? Son assistante, voilà. Et elle revient, et elle a dit, Dieu vous aime. Voici le médicament. Alors, ça m'a beaucoup aidé, donc je ne vais pas pouvoir prêcher comme j'ai envie de prêcher, mais je vais demander au Saint-Esprit ce matin avec vous d'être connecté à lui et d'écouter un message très simple. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, à vous et moi, plus que jamais, de choisir d'être des hommes et des femmes de valeur. J'ai été, bien sûr, comme vous, extrêmement attristé et blessé par les événements que nous avons vécu ces derniers jours, surtout aux USA, avec ces 12 ou 14 morts et ces 50 blessés lorsqu'un homme est entré et qui a mitraillé et tiré à bout portant sur des gens dans un cinéma. Et je pensais, bien sûr, aux caméras, je pensais à tout ce qui se passe en ce moment en Syrie et partout dans le monde. Et j'ai pensé pensez également à ce qui se passe à La Réunion, aux femmes battues, aux hommes qui sont blessés, aux divorces, aux enfants maltraités, abandonnés. Je me suis dit, Seigneur, on ne peut pas rester comme ça. Et vous connaissez mon cœur en ce moment. Et j'ai besoin de vous dire plus que jamais que Dieu cherche un peuple qui non seulement prie, mais un peuple qui brille, un peuple qui sort des quatre murs de la maison de l'église, un peuple qui va tendre la main à ceux qui souffrent. Et j'ai pensé à un homme dans la parole de Dieu ce matin en priant. Et j'ai vraiment pensé à l'amour de Dieu dans nos vies. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de vivre cet amour au quotidien. Et vous lirez chez vous Romains 5, verset 5, qui dit que le Saint-Esprit, ou Dieu en tout cas, a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas parler d'un amour humain, un amour charnel, un amour manufacturé par l'homme. Je vais parler d'un amour que le Saint-Esprit déverse dans les cœurs. Ce n'est pas un amour que nous pouvons recevoir par religion. C'est un amour que nous recevons en priant, en passant du temps dans la présence de Dieu et du temps ensemble. Et j'aimerais vous parler d'un homme qui m'a beaucoup interpellé ce matin. Et son nom parfois fait peur, son nom intrigue. Son prénom, son nom dans la parole de Dieu, c'est Épaphrodite. Tout le monde dit Épaphrodite. Et dans Philippiens, chapitre 2, au verset 25, je vais lire pour vous ce matin quelques passages. La parole de Dieu dit, c'est Paul qui parle. Et Paul dit, par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite. Et il dit, c'est mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes, votre délégué, votre ambassadeur, que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir. Et il était préoccupé, inquiet. La version grecque dit, il était brisé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Même l'apôtre Paul avait des moments difficiles. Verset 28, je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Et cela adoucira votre peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes. Car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous pouviez me rendre vous-même. Le contexte ici, c'est Paul qui est en prison. Et Paul est en prison et l'église basée à Philippe décide de prier pour Paul. Mais plus que ça, ils disent, écoute, Paul est en prison, on va envoyer un homme de valeur. On va envoyer quelqu'un qui a le cœur comme le nôtre. On va envoyer quelqu'un visiter Paul, encourager Paul, édifier Paul, fortifier Paul. Et ils envoient avec cet homme-là qui s'appelle Épaphrodite, ils envoient une offrande qu'ils ont faite pour Paul. Et cet homme-là est envoyé de Philippe et va voir Paul à Rome et il dit, voilà, je suis venu de la part de l'église, je sais que tu es en prison. Vous savez, tout au long de la vie de Paul, il y a eu des hommes qui ont été pour Paul, avec Paul, et des hommes qui ont été contre Paul, qui ont été opposés à Paul. Mais dans ce cas-là, Paul nous fait référence d'un homme qui était avec lui. En d'autres termes, il était pour lui, il était son soutien, il était consacré au royaume de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous encourager simplement à faire référence dans votre cœur, à vous dire, Seigneur, j'aimerais être un homme comme Épaphrodite. Tout le monde veut être comme Paul, et c'est bien. Tout le monde veut être comme Pierre. Hier, j'ai passé ma journée, j'ai lu le livre des Actes en son entier hier. Extraordinaire de lire le livre des Actes. J'ai dit, bon, je commence et je m'arrêterai à la fin du livre. Et j'ai lu et j'ai écouté le livre des Actes dans son entier. Et je me suis rendu compte à nouveau combien ces hommes-là, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques et comme Jean, comme l'Église, comme Étienne, étaient consacrés à aimer le peuple, à aimer les gens. Ils étaient consacrés à partager la bonne nouvelle. Et j'ai pensé à ces hommes-là. J'ai dit, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer le cap tous les jours? Comment est-ce qu'ils ont fait pour aller de l'avant? J'ai dit, tu vois, Seigneur, ton Église en France a besoin d'avoir des hommes comme ceci. Et Dieu me dit, c'est vrai, mais ces hommes comme Paul, comme Pierre, comme Jacques et comme Jean avaient aussi besoin de soutien. Et ce matin, Dieu me dit, encourage mon église à chercher à être des Épaphrodites. Et le mot Épaphrodite est un mot extrêmement encourageant et extrêmement intéressant, parce qu'il vient du mot grec qui signifie celui qui appartient à Aphrodite. Et Aphrodite était la déesse grecque de l'amour. Et donc ce gars-là était consacré par les Grecs en disant, c'est un homme qui reflète l'amour, qui reflète la bonté. Mais en même temps, ce mot Épaphrodite signifie celui qui est très commun, C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas connu ni reconnu parce qu'il est extraordinaire. Ce n'est pas quelqu'un comme un apôtre ou un évangéliste ou un président ou un sénateur ou un homme riche. C'est un homme commun. En fait, le mot grec signifie quelqu'un qui est comme vous et comme moi, mais qui a tellement de charme qui reflète l'amour autour de lui. Quelqu'un qui est tellement simple. Dans le grec, c'est magnifique, il dit quelqu'un qui est simple, tellement simple, mais quand il parle, quand il agit, quand il réagit, quand il vit, il manifeste l'amour autour de lui. Donc il en donne le prénom d'Épaphrodite, celui qui reflète l'amour. Et Paul dit ici, et ça m'a touché, il dit « Je vous envoie, je vous renvoie Épaphrodite, celui qui manifeste l'amour envers moi. » Il dit « Je vous le renvoie » au verset 25. Et il dit des mots qui m'ont beaucoup touché aujourd'hui. Je vous encourage à lire avec moi ce passage en Philippiens 2 qui dit « J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, celui qui est plein de charme et d'amour, mon frère, mon collaborateur, mon compagnon d'armes. » Je ne vais pas lire tout, mais je vais rapidement ce matin vous encourager et vous dire quel type de chrétien nous devrions être aujourd'hui. Quel type d'église devrions avoir. J'ai été extrêmement touché par la présence de Dieu hier. Quand je priais pour le président François Hollande. Et vous savez que, en tant que pasteur dans l'église, nous devons savoir prendre position. Mais Dieu me dit, Bruno, il faut que tu arrives avec l'église à ne pas vouloir être une voix avant d'avoir mon cœur. Tu ne peux pas être la voix de Dieu si tu n'as pas mon cœur. Parce que si nous sommes la voix de Dieu sans le cœur de Dieu, nous allons mal représenter Dieu. Il m'a demandé, est-ce que tu pries pour le président avec les larmes? Est-ce que tu es capable d'envoyer des Épaphrodites envers l'église en France, envers le royaume de Dieu et envers le monde et envers les journalistes? Il y en a quelques-uns ce matin ici dans ce lieu. Et envers le monde politique et envers les chanteurs. J'ai vu une émission avec mon épouse cette semaine sur Vanessa Paradis. J'ai été touché de voir que cette jeune femme a vécu des moments difficiles. Et j'ai été touché de voir comment elle a persévéré. Alors je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'elle fait, mais j'ai été choqué de voir comment à l'âge de 15 ans, je crois, elle a fait son premier grand concert et elle avait déjà un grand succès avec Joe le Taxi, que vous savez bien, je pense. Et elle chantait à 15 ans, mais la salle tout entière l'a sifflée et sifflée de honte parce qu'ils croyaient que c'était une personne marketing commerciale, quelqu'un qui n'aurait pas eu de futur dans le commerce, l'industrie de la chanson. Et bien sûr, Paradis aujourd'hui est une star, mais à 15 ans, elle a continué à chanter. Je disais, mais c'est quel genre de femme, qu'est-ce caractère-là, 15 ans? Et j'ai repensé à quelqu'un comme Épaphrodite qui lui aussi, dans le moment le plus difficile de sa vie, il a continué à servir. Et je me suis dit, Seigneur, comment ça se fait qu'il y a des hommes et des femmes comme ça qui ont fond de ce caractère, qui tient le coup malgré tout, qui ne cherche pas à regarder si la France va mal, s'il y a des problèmes dans le monde entier. Il cherche à être tout ce que Dieu veut qu'il soit. Il cherche à être là où il faut être. Il cherche à servir, à aimer. Et quand j'ai lu cette semaine 1 Corinthiens 15, 58, un verset qui illustre Épaphrodite, un verset qui m'a fait rappeler, que vous le croyez ou non, Vanessa Paradis à 15 ans. Ce passage dit ici, pourquoi mes chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Wow! Des hommes et des femmes qui travaillent pour Dieu, qui vivent pour Dieu, qui aiment le monde, qui aiment les gens, qui n'attendent pas d'être aimés en retour. Je me suis rendu compte, moi le premier, que nous avons besoin d'aimer les gens comme Dieu les aime. Et pour cela, il faut être comme des Épaphrodites, capables de tenir ferme, de ne pas être ébranlés, de se dire je vais avancer coûte que coûte, je vais aller faire ce que Dieu veut que je fasse. Alors rapidement ce matin, nous voyons que Paul appelle Épaphrodite en disant c'est mon frère. Le mot frère en grec signifie quelqu'un de la même famille. Paul est en train de dire à tous les gens à l'église de Philippe, il dit tu vois Épaphrodite, je le considère comme mon frère de sang, c'est ma chair, la chair de ma chair. Il est tellement avec moi à mes côtés que je sais que je peux compter sur lui à tout moment. Et après il dit, juste après il dit c'est mon, verset 25 pareil s'il te plaît, il dit c'est mon collègue, il dit c'est mon collaborateur. Je ne sais pas pour vous, mais être appelé le collaborateur de Paul, c'est un grand titre. L'apôtre Paul est un homme de Dieu extraordinaire. Et il dit, c'est mon collaborateur. Ce qui m'a étonné ici, c'est que le mot collaborateur signifie quelqu'un qui vient à tes côtés pour faire tout ton travail avec toi. Paul se dit, non seulement Épaphrodite est quelqu'un en qui je peux avoir confiance parce que je peux partager mon cœur, c'est mon frère, c'est quelqu'un avec qui je peux avoir une communion, parler, pleurer, partager mes péchés, dire ce que je ressens et qui peut me soutenir. Mais non seulement ça, non seulement il apprécie une communion avec moi, mais il aime travailler avec moi. Et c'est peut-être un des problèmes de l'Église en France, c'est qu'on aime beaucoup passer du temps ensemble, manger ensemble, prier ensemble. Mais il est difficile parfois de trouver en France peut-être une église qui dit nous allons travailler ensemble, nous allons communier ensemble, mais travailler ensemble. Et je crois que les leaders ont été bénis mardi dernier lors de la des leaders. On a vu ensemble que les groupes extravagances que nous voulons mettre en place dans les semaines qui viennent, qui vont commencer à la rentrée, sont des groupes qui manifestent le désir de travailler ensemble pour aimer le monde. Et ici, Paul dit, Épaphrodite, tu es mon collaborateur, mon collègue, tu es avec moi, tu travailles à mes côtés. Paul veut, le grec est puissant, je n'ai pas le temps de tout dire ce matin, mais Paul dit en fait, Épaphrodite a compris qu'il n'est pas là simplement pour être un homme qui vient donner un coup de main, il est là pour travailler à mes côtés en tant qu'homme de Dieu. Il travaille, il ne cherche pas à avoir un titre, une position, il ne cherche pas à être reconnu par les hommes, il cherche tout simplement à travailler pour Dieu. Vous savez ce qui m'a touché ici, et je parlais avec des frères et sœurs en Christ cette semaine, qui me disaient ce qui a été vraiment touchant pour eux ici à Hosanna, à Extravagance, c'est de voir le nombre de leaders présents mardi soir. Près de 200 personnes étaient réunies ici mardi soir en disant « Nous voulons servir Dieu ». Ça, ce sont des collègues. Après, Paul dit « Mon compagnon d'armes ». Ce mot-là, en grec, est extraordinaire. C'était le même mot que l'empereur Alexandre le Grand. Tout le monde le connaît ? Alexandre le Grand, lorsqu'il voulait encourager un soldat des forces spéciales qui avait fait un travail extraordinaire, Alexandre le Grand venait en disant « Toi, viens ». Il appelait le gars à ses côtés et il disait « Je te considère comme moi-même ». Et quand quelqu'un a été reconnu par Alexandre le Grand et avait une médaille d'honneur, les gens qui le regardaient savaient qu'ils étaient au même niveau qu'Alexandre le Grand. Et c'est comme Paul dit « C'est mon compagnon d'armes ». Il veut dire « Quand vous me voyez moi, voyez Épaphrodite dans la prière, sur les genoux, c'est le même niveau spirituel, c'est le même genre de combat. C'est pas un homme qui prie un petit peu, c'est un homme qui prie comme moi je prie. » Église, le jour ou dans l'église, on peut tous se dire « Tu es mon compagnon d'armes ». On arrive à un stade où la prière est tellement puissante, où nous brisons l'ennemi. Je vais vous dire une parenthèse sur la prière. Il y a deux niveaux extrêmement importants dans le combat spirituel. Le premier niveau, dans lequel beaucoup de chrétiens sont engagés, qui n'est pas le niveau dans lequel on a un impact énorme, c'est le niveau dans lequel nous prions d'un niveau, sur un niveau, horizontal. Nous prions les uns pour les autres et c'est bien. Nous prions pour la France et c'est bien. Beaucoup de chrétiens prient comme ça et c'est bien. Mais ce n'est pas là où nous faisons le plus de dégâts. Le plus de dégâts spirituels sont faits lorsque l'Église va dans le monde spirituel pour briser les chaînes de l'ennemi sur une région. Ça, c'est ce qui est important. C'est quand dans une guerre, avez-vous déjà vu une guerre, malheureusement ? Une guerre est remportée lorsque les forces de l'air, lorsque l'aviation civile arrive à pilonner l'armée ennemie. Lorsque les canons, les sous-marins, ce que vous voulez, les tanks, toute l'artillerie lourde est pilonnée et détruite, il est facile à l'armée d'envoyer les forces spéciales de terre, les hommes et les femmes armés, et ils y vont quand ils savent qu'ils ont une couverture, oui ou non, aérienne puissante. Mais s'il t'envoie ton armée de terre, il n'y a aucun avion, aucun hélicoptère, aucune force spéciale aérienne qui te couvre, tu es en danger, mon ami. Oui ou non ? Et là, Paul dit, Épaphrodite dans le grec, c'est un gars qui savait tellement gérer le monde spirituel que lorsqu'on avançait dans le monde naturel, il n'y avait plus de combat. Il y avait moins de conflits. Aïe, 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 que l'Église tombe amoureuse de la présence de Dieu. Et ce mot grec là, c'est le mot sostratios, ça vient du mot grec stratios, qui signifie stratégiste. Paul dit, Épaphrodite est un stratège. Un homme qui, quand il prie avec moi, nous étions capables de démonter les forces spéciales ennemies contre nous, et ça permettait à l'Église d'avancer. L'Église, Hosanna, avance parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui prient. Et vous et moi, nous devons nous réjouir de savoir qu'Épaphrodite était un homme de prière, un homme proche de Paul, un ami, un collaborateur dans le travail, un collègue, un compagnon d'armes. Et Paul dit au verset 25, il dit, vous avez délégué cet homme. C'était un ambassadeur. Le mot délégué en grec, c'est le mot ambassadeur. Quelqu'un qu'on envoie. Est-ce que vous savez qu'un ambassadeur est un homme de confiance, un homme de qualité? Pour être un ambassadeur, il faut savoir représenter le royaume qui t'envoie. Si le président envoie des ambassadeurs dans les pays étrangers, c'est pour représenter la France, sa position, ses règles et ses lois. Et si vous et moi, nous sommes envoyés par Dieu, c'est pour représenter Dieu, sa position, ses règles, ses lois, son autorité. Et Paul dit, Épaphrodite était votre ambassadeur. Il vous a représenté envers moi. Il a été un homme qui a reflété votre cœur envers moi. Épaphrodite est un genre de chrétien que tous nous devrions être. Ensuite, il m'a apporté... Il dit ici, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. C'était un homme qui avait emmené l'offrande du peuple de Philippe à Paul. Et ça parle de quelqu'un digne de confiance, quelqu'un qui est un ministre, capable d'administrer des biens, quelqu'un qui est digne de confiance pour ne pas voler dans la caisse ou pour ne pas faire des choses bêtes. Il a amené les offrandes pour le peuple. Mais après avoir dit ça, je me suis dit, Seigneur, c'est puissant comme passage. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est dans le verset 26. L'apôtre Paul continue en disant, il avait en effet un grand désir de vous revoir. Pourquoi ? Parce qu'il était préoccupé, parce que vous avez appris qu'il était malade. Ça m'a choqué. Le gars est malade. Paul dit verset suivant, il était malade, il a même frôlé la mort. Mais dans sa maladie, où il est sur le point de mourir, à quoi est-ce qu'il pense ? À qui est-ce qu'il pense ? À l'église qu'il a envoyée. Il ne pense pas à lui-même, il ne pense pas à ses propres besoins, il ne pense pas à ses soucis, il ne pense pas à sa maladie, il pense à l'église qui est inquiète pour lui. Et il est inquiet parce que l'église est inquiète. Ça m'a interpellé. Je dis, waouh, ce gars-là a tellement un focus, a tellement un centre d'intérêt différent. Il est comme Dieu, il est comme Jésus-Christ qui dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour donner ma vie en rançon pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades. Jésus a dit, je ne suis pas là pour mes propres besoins, je suis là pour les autres. Et Épaphrodite a fait des kilomètres, des dizaines de kilomètres. Il n'y avait pas d'avion à l'époque, je vous rassure. Il n'y avait pas de Skype, il n'y avait pas d'Internet, pas d'email, pas de voiture, il n'y avait pas de vélo. J'ai vérifié. Il est arrivé, malade, sur le point de mourir, et toute son inquiétude était, mais comment va le peuple de Dieu qui m'a envoyé ? Ils sont inquiets. Et la parole de Dieu nous dit ici qu'il a été rempli il a été préoccupé. Le mot préoccupé en grec, c'est le mot, écoutez bien ça, hein, il a été brisé par sa douleur. C'est le même mot grec qui a été utilisé pour décrire l'attitude de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Quand Jésus était en peine et qu'il avait des sueurs de gouttes de sang, c'est exactement le même mot, c'est la même souffrance qu'expérimentait Épaphrodite, tellement il aimait le peuple de Dieu. Il pleurait en disant, Seigneur, ma vie n'importe peu, mais je suis inquiet parce qu'ils sont inquiets. Renvoie-moi vers eux. Waouh. Cet homme-là, Dieu a choisi parmi des siècles. Paul a choisi de parler de lui en plein milieu d'une lettre puissante en disant, je vous envoie un homme qui s'appelle Épaphrodite, un frère, un collaborateur, un compagnon d'armes, un ministre, un ambassadeur, un homme à mes côtés qui vous inquiète pour vous. Et ce gars-là manifeste réellement le style de cœur que vous et moi, Église, nous devrions avoir. Je crois sincèrement qu'en ce moment, Dieu est en train de dire à l'Église extravagance que nous sommes en train de venir, que cette extravagance va naître d'un cœur qui s'oublie. Que nous, si nous tournons nos regards vers les autres, plus que jamais, si nous cherchons à être comme ces hommes et ces femmes, comme Épaphrodite, qui choisissent une vie de sacrifice, je sais, ce n'est pas un mot qu'on aime dire. Ce n'est pas un mot qu'on aime avoir. Dans le vocabulaire, se sacrifier, c'est pas ce que l'on aime, mais je crois que la France, que la Réunion mérite que nous puissions nous sacrifier pour elle. Je sais que si nous voulons manifester le cœur de Dieu, avoir une vie de sacrifice. Dernièrement, un homme m'a demandé pourquoi est-ce que j'accepte d'exposer ma vie comme je le fais aujourd'hui. Parce que premièrement, je prends le risque de m'exposer parce que je crois de tout mon cœur que Dieu veut que son Église manifeste quel genre de Dieu il est. Il est un Dieu accessible. Dieu n'est pas un secret. On va mettre pour moi le verset Matthieu que j'ai envoyé hier soir. Dieu n'est pas un secret qu'il faut garder. Et ce matin, j'aimerais finir ce passage avec vous. J'aimerais vous dire sincèrement du fond du cœur que je veux vous encourager à vous exposer plus que jamais. Vous savez ce que j'ai entendu dans mon cœur hier, Dieu me dire, Bruno, si tu aimes comme moi j'aime, alors tu vas t'impliquer dans la vie des gens. L'amour nous pousse à nous impliquer. On ne peut pas aimer les gens à distance. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire je t'aime et je te verrai demain. Ça ne marche pas comme ça. Si j'aime l'église, si j'aime les gens, je m'implique. Je viens le voir, je viens te voir, je viens t'encourager. Ce passage m'a beaucoup touché depuis des semaines maintenant et c'est devenu mon passage quotidien. Voici notre façon de présenter les choses. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, vous êtes ici pour être la lumière, pour faire ressurgir, pour mettre en valeur les couleurs de Dieu dans le monde. Pouh. Dieu n'est pas un secret qui doit être gardé. Ah, j'aime ça. Dieu n'est pas un secret. Dès l'instant où vous voyez les choses secrètes, c'est une secte. Une secte garde les choses secrètes. Une secte fait des choses cachées. L'église de Christ n'est pas une secte. C'est pour cela que tous nos comptes sont tous les années dévoilés au grand jour et que n'importe quelle personne qui veut savoir combien je touche me demande à notre trésorier combien de stylos on dépense, vous me demandez, ce n'est pas un problème parce que Dieu n'est pas un secret. Dieu est la meilleure nouvelle que nous puissions annoncer aux gens. Et dans ce monde aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes qui font des choses quotidiennement qui ne reflètent pas Dieu. Mais nous, les juger, allons les aimer et leur montrer comment Dieu agit. Je regardais l'émission hier, tiens, sans faire exprès, Antoine, qui s'appelait « Faut pas rêver » sur l'Australie. Magnifique émission. Et j'ai vu ces surfeurs-là qui étaient des gangs. Et j'ai vu comment ce gars-là, l'un des meilleurs surfeurs au monde à l'époque, a créé cette culture du gang et qu'il partageait ses valeurs et le soutien. Si tu touches un de mes gars, tu me touches moi. Et ils se battent, ils ont ces valeurs énormes et ils se serrent la main d'une façon spéciale. Ils ont un tatouage sur leur corps qui reflète leur identité entre eux. C'est une vraie famille. Les gars sont radicalement unis. J'ai dit waouh, on dirait l'église. Sauf que nous, parfois, on dit oui, amen, mon frère, amen, ma soeur. Pas nous, d'accord, mais quelques chrétiens, parfois on est trop faibles. L'amour ne signifie pas être faible. L'amour signifie se donner, surtout si ça fait mal. L'amour vrai existe dès l'instant où j'ai été blessé. Tant que je ne suis pas blessé, l'amour vrai n'existe pas. C'est quand je suis blessé que je choisis d'aimer malgré tout que l'amour devient vrai. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette émission hier soir. Quand le gars disait, mais oui, on se fait du mal, oui, il y a un problème, on va parler ensemble, on va discuter ensemble, on va aider les gars. Il y a des jeunes qui perdent leurs parents, ils sont orphelins, leur premier réflexe est de courir dans ce gang de surfeurs. Et ces gars-là les prennent sous leurs ailes et leur montrent que par le surf, ils peuvent changer de vie. Je dis, mais Seigneur, mais nous, on a plus que le surf. On a le créateur du surf. C'est Dieu qui a créé le surf. Ah bon? Oui. Parce que Dieu a créé le créateur du surf. Et quand je serai au ciel, les premières 100 ans, je passe avec un surfeur. Je vais voir le gars qui a créé le surf. Tiens, comment t'as fait? À quoi t'as pensé? T'en as marre de nager, t'as pris un bout de bois, t'es venu dessus comme ça? C'est comme le café. Qui a eu l'idée de prendre ses graines d'arbres amers, de dire je vais broyer, mettre de l'eau chaude dessus, et je vais boire? Dieu est le créateur. Alors je pensais à ça hier soir et je me suis dit waouh. Et Dieu me parlait, il me dit, tu vois. Je me suis demandé à moi-même, pourquoi on appelle l'émission Faut pas rêver? Pourquoi pas au contraire Faut rêver? Alors je me suis dit, peut-être parce qu'ils veulent dire Faut pas rêver parce que ça existe, c'est la réalité. Arrête de rêver, c'est là, ça existe, va le voir plutôt. Et je me suis mis à me dire, tu vois, ces gars-là m'ont inspiré, Steve. Ils m'ont inspiré par leur façon de voir les choses. Et toute la semaine, Dieu a construit ma vie, mon cœur sur Épaphrodite. Je voulais vous choquer, mais il m'a montré Vanessa Paradis. Comment elle était stable et ferme et solide, malgré tout ce qu'il y avait contre elle. Je me suis dit, waouh. Et j'ai pensé ensuite à ces surfeurs d'hier soir, qui étaient là et qui se battent pour leurs valeurs. Je ne dis pas qu'ils ont raison pour tout, mais ils ont des valeurs. Ça m'a rappelé l'Église. Ces hommes dans 2 Corinthiens 5, 15, 58, on est tout à l'heure, qui disaient, ils sont inébranlables, ils vont de l'avant, ils avancent. Et donc ce verset Matthieu qui dit ici, Matthieu 5, désolé, je venais là-dessus, qui dit, Dieu n'est pas un secret pour être gardé. Et t'es où là? Je suis perdu. Voilà. Tout le monde dit merci, Ivan. nous allons faire connaître cela au monde. Tout comme une ville est visible, accessible, au sommet d'une colline, si je fais de vous des flambeaux, c'est Christ qui parle, Dieu parle, si je fais de vous des flambeaux, des porteurs de lumière, vous ne pensez tout de même pas que je vais vous cacher sous un seau, n'est-ce pas? Je vous mets sur un trépied, maintenant que je vous ai mis au sommet de la colline, sur un trépied, brillez. Gardez vos maisons ouvertes, soyez généreux avec vos vies, en vous ouvrant aux autres, vous allez inciter les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père céleste généreux. Et voilà ce que j'aime. Voilà le Dieu que nous servons ce matin. Voilà Épaphrodite qui dit lui, il n'a rien à perdre. Il n'est pas là pour un titre, il n'est pas là pour être reconnu par les hommes. Il ne veut pas être pasteur, prophète, président, maire ou quoi que ce soit. Il veut simplement être un homme qui est connu pour l'amour qu'il a. Un homme qui reflète le soutien à tous ceux qui l'entourent, à des pôles et à l'église, qui est digne de confiance, qui vient et qui brille, qui dit « Seigneur, tu as fait de moi une lumière, laisse-moi briller. » Alors non, on n'est pas parfait, mais ce matin, on n'est pas là par hasard. On n'est pas là parce qu'on veut juste être les meilleurs, pas du tout. On est là parce que Dieu nous appelle à briller. Alors, cette semaine, et qu'il ne faut pas rêver, qui est là aujourd'hui, va nous filmer, va me filmer, va vous filmer vous aujourd'hui, peut-être que demain on aura une émission ensemble, on va être filmé. Ce que je demande, c'est que vous priez pour moi. Et que ce ne soit pas seulement un homme ou un jeune gars qu'on va voir, mais surtout l'amour de Dieu. Je le dis sans aucune gêne devant M. Laura ce matin et son équipe et Alexandre. Je veux simplement sincèrement que l'église entière prie pour moi. Et mon épouse et ceux qui vont être avec moi cette semaine et prie pour leur émission. Que ce soit une émission qui touche le cœur des gens. Je sais que M. Laura, pourquoi j'ai dit oui? Parce que j'ai vu beaucoup d'émissions, il ne faut pas rêver. Et ce que j'aime, c'est leur neutralité. Ils présentent les choses telles qu'elles sont. Et j'aime ça. Je dis pas oui à tout. Et aussi parce que Franck Grand, j'aime l'a demandé. Quand Franck, c'est un bon gars, je l'aime beaucoup. Et ce que j'ai sur mon cœur, c'est de dire, est-ce qu'on peut tous ce matin prier pour Alexandre et prier pour Antoine, que Dieu les bénisse richement dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, qu'ils aient un travail de plus en plus extraordinaire et qu'au fil du temps, alors qu'ils filment les gens sur terre, que leur œil soit porté sur la beauté et sur la bonté de Dieu plus que sur ce qui va mal dans le monde. Amen. Parce qu'on a besoin de ça. Alors ce matin, on va vous demander uniquement, si possible, de quelques secondes, baissez la tête, s'il vous plaît. Fermez les yeux avec moi. On va prier ensemble, on va demander au Saint-Esprit de nous mettre dans notre cœur cette image de cet homme qui s'appelle Épaphrodite. Et de dire, Seigneur, c'est un homme qui nous inspire. Je suis inspiré par cet homme, je veux te demander humblement, ce matin, Esprit de Dieu, de nous remplir de toi et de nous montrer comment être ce genre d'homme, frère, et des sœurs les uns pour les autres, mais aussi des compagnons d'armes, mais aussi des collaborateurs. On est là pour travailler les uns avec les autres. On est là pour inspirer le monde. On est là pour briller pour toi. On n'est pas là pour juger le monde. Les gens souffrent. Les gens sont blessés tous les jours. Les gens sont maltraités tous les jours. Ils sont critiqués tous les jours. Ils sont jugés tous les jours. Ils se demandent ce qu'il y a demain. Ils se demandent comment faire. Ils disent si Dieu existe, pourquoi tant de choses? Nous sommes envoyés par toi. Parfois, je me dis, Seigneur, parfois je me dis, pourquoi m'as-tu choisi? Pourquoi tu choisis nous? Qu'est-ce qu'on a à offrir au monde? Et tu m'as simplement dit, je t'ai donné ma présence, et c'est ma présence que tu dois offrir au monde. Et avant d'être ma voix ce matin, dit Dieu, sois mon cœur, aime les gens, aime tes ennemis, bénis ton ennemi, aime ceux qui te font du mal, parce que le monde entier verra que je suis vivant, dit Dieu, par votre amour les uns pour les autres et par votre capacité à bénir vos ennemis. Pas facile à faire, impossible à faire sans ton aide. Romains 5, verset 5 nous dit que Dieu a déversé son amour par le Saint-Esprit. C'est que par la présence de ton Esprit que nous pouvons faire la différence. Ce matin, Esprit de Dieu, je prie pour l'Église Extravagance, ici ce matin réunie dans ce lieu. Je prie pour toutes les églises, tous les pasteurs. Je prie pour les églises protestantes, évangéliques, catholiques, toutes celles qui exalte ton nom. Toutes celles qui reconnaissent que tu es Seigneur de leur vie et Sauveur de leur âme, nous les bénissons abondamment ce matin. Et nous prions pour l'équipe, tous ceux qui sont là ce matin, qu'il ne faut pas rêver. Nous prions pour qu'ils soient touchés, encouragés, fortifiés, qu'ils sachent que tu les aimes, que nous les respectons, que nous les aimons, qu'ils puissent faire les choses avec excellence, qu'ils puissent être protégés durant leur séjour ici, que chaque image qu'ils vont capter soit belle, que la réunion soit mise en valeur, parce que tu as promis que la réunion serait filmée de plus en plus, qu'elle serait mise en valeur dans le monde entier. La réunion est une belle île. Les gens qui y vivent sont des hommes et des femmes qui ont besoin de toi et qui apprennent à vivre en communauté. Il n'y a pas de guerre de religion ici. Il y a un désir de se pardonner, mais il y a surtout un désir en ce moment de voir le peuple de Dieu s'élever par l'amour que tu mets dans nos cœurs. Ce matin, Esprit de Dieu, je te demande humblement de bénir, de saturer ce peuple. Merci pour le dimanche que tu nous donnes, que ce soit un dimanche de famille, de paix, de joie, de bonne humeur, un dimanche où la vie que tu nous donnes soit une vie agréable. Tu ne dois pas donner la vie pour qu'on puisse la perdre, tu dois donner la vie pour qu'on puisse la partager. Nous voulons partager la vie. Que tu bénisses chacun dans ce lieu ce matin, dans le nom de Jésus-Christ et de mon Dieu bien fort. Acclamons le roi, ma soeur. Ma soeur Steph.